Bienvenue au 22e épisode de Littéramour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter deux premiers romans. Ultramarin de Mariette Navarro et Dieu les Pères de Jean-Paul Dumagrier. Il y a 10 ans, Mariette Navarro a traversé l'Atlantique sur un cargo avec d'autres auteurs qui, comme elle, écrivent pour le théâtre. Le Centre national du théâtre avait organisé le voyage. Il n'y avait aucune contrainte, si ce n'est que les auteurs et les autrices devaient tenir un journal de bord commun. À partir des notes que Mariette Navarro a ramenées à Paris, elle voulait d'abord former un texte dramatique, puis un recueil de poèmes. Elle a laissé tomber ses projets, mais lorsque le personnage d'une capitaine a pris forme dans sa tête, elle a eu envie d'inventer une histoire.
Oui, alors le personnage est vraiment s'est construit au fur et à mesure de l'écriture. J'ai pas préparé avant, j'ai pas fait une fiche avec. J'ai pris la décision un peu arbitraire que ce commandant soit une commandante. Dans mon vrai voyage, c'était un homme et je voulais juste raconter quelqu'un comme vous et moi, une femme de son époque normale et avec les enjeux qui la traversent et qui peuvent être les mêmes qu'un homme. Mais évidemment, de mettre une femme avec que des hommes sous son commandement, ça construit tout le roman finalement, parce que ça a construit son caractère, la rigueur qu'elle est obligée d'avoir, la distance parfois avec ses marins et en même temps l'attirance avec certains et l'amitié, et voilà, tout ce trouble qui nous traverse, tout ça, ça a découlé de l'idée juste que ce soit une femme en fait.
L'équipage est composé de 20 hommes. Il demande à la capitaine si elle les autorise à se baigner en pleine mer. C'est une idée folle. À la grande surprise de tous, elle accepte la proposition et à partir de ce moment, tout est différent. Lorsque le cargo n'a plus de contact avec la terre, elle décide de couper le radar et d'arrêter le moteur, contrairement à toutes les lois maritimes. L'équipage descend sur le canot de sauvetage. L'aventure commence.
Les 10 premières minutes, ils sont sans intention. Ils glissent dans l'eau et s'y déplacent avec des gestes désordonnés, nagent leurs nages inventées autour du canot, font la brasse sous l'eau puis émergent en soufflant. Ils sont dans leur corps. Le noir de l'eau, quand on y plonge, redevient transparent. Ils ont une énergie venue d'on ne sait où. Ils voudraient tout essayer, tout voir, tout vivre. Leur temps est revenu à son point de départ. Ils crient à plein poumon pour en être bien sûrs. Ils n'explorent rien d'autre que leur propre chair plongée dans le liquide, que leur propre résistance au courant dans cet océan de grand calme. Même si, à maintenir la tête à la surface, l'horizon se balance. L'une après l'autre, les vagues les cachent à la vue du bateau. Ils sentent alors ce que c'est de ne compter pour rien. Un peu de sel les aveugle, un peu de transparence les fascine, et cette couleur qu'ils n'avaient jamais vue avant, vert pupille. Ils sont émerveillés devant le moindre objet qui brille, même si ce n'est que leurs propres cuisses qui captent la lumière. Ils saisissent que ce seront les secondes les plus pures, sans frayeur, ni ombre, ni nuage. L'instant, ils l'étirent, chacun dans l'eau dessinant sa propre trajectoire. Ils nagent de longs crawls inconscients. Ils savent que ce seront les minutes immortelles, les seules peut-être avant longtemps, les seules pendant lesquelles ne pas se poser la question du retour et tracer son sillon droit devant dans une parfaite gymnastique. À la 11e minute, ils calment leurs mouvements et se laissent mordre par le froid. Ils respirent. La tête hors de l'eau, ils voient le ciel autrement. Plus proche peut-être, ou d'un bleu plus profond, ou bien ce sont leurs yeux qui fatiguent dans la lumière. Ils se redressent, constatent la perte de repères. Ils ne savent plus tenir le corps perpendiculaire à l'eau puisque la mer s'amuse à se tordre. Est-ce le soleil qui leur joue des tours, ou le léger accroissement des vagues? Ils rient encore, chacun pour soi, testent l'écho du rire dans chaque boîte crânienne, mesurent la distance étrange entre les premières questions qui les effleurent et le son de leur propre voix, entre le vacarme de l'eau et le silence des autres. Alors survient le trouble, l'absence soudaine de toute logique. Ils rient pour se prouver, au moins à eux-mêmes, leur présence. Ils élaborent des scénarios de rêves et d'évaporation, de blagues et de myopies foudroyantes. Ils remettent en question leur notion du temps. Après tout, peut-être que la joie les a gardés plus longtemps que les autres, peut-être que ces minutes à barboter étaient des heures, et leur capacité physique d'une ressource insoupçonnée. Les collègues, certainement, oui, sont remontés à bord il y a longtemps, dans un aller-retour du canot orange, sans qu'ils y prêtent attention, et puis on a renvoyé la barque vers le baigneur solitaire, vers l'heureux pataugeur. Mais ils ont beau ficeler la logique, observer autour d'eux, ils savent qu'ils se mentent. Ils ne s'attendaient pas à cet étourdissement, ce trouble si soudain de toutes leurs facultés. Ils ne pensaient qu'à la merveille. Dans la 20e minute, ils n'ont pas d'autre choix que de mobiliser leurs pensées sur quelque chose de concret. Ils se souviennent des échelles et des bouées, que le canot rôde à côté et que, quoi qu'il en soit, d'en haut, on les surveille. Ils refont mentalement la chaîne des actes et des conséquences. Ils se souviennent de ne craindre rien, ni la profondeur, ni la hauteur du cargo. Ils s'apportent à eux-mêmes des preuves de leur vie, étirent, respirent, crachent et grelottent, se disent à voix haute quelques vérités intimes, de grandes phrases métaphysiques. Qui n'y arrive pas par la logique, tente de résoudre avec humour la question de son avenir immédiat, puis se lasse de son monologue muet, tais-toi et nage. Mais pour d'aucuns, c'est trop tard. Ils ont eu la pensée nette des kilomètres sous leurs pieds. Et ce qu'ils ne s'attendaient pas à rencontrer ici, le vertige, est arrivé. Plus de différence entre les corps suspendus au-dessus des ponts et de tous les parapets, les corps en montagne qui escaladent cherchant le vide, et leur corps à eux, ici et maintenant, leur corps d'innocente baignade. Plus de différence entre les étages angoissants du suicide et la nage prudente autour du canot. L'idée s'est ouverte sous leurs pieds et dans leur ventre, un déchirement. Certains, il a suffi d'une seconde, ne peuvent plus regarder l'eau, imaginer la ténèbre du fond, redresser leur corps pour battre des pieds. Ils chutent à présent de tous les immeubles possibles, de toutes les falaises, de tous les cauchemars.
35 minutes dans l'eau profonde suffisent pour que les hommes connaissent le temps qui s'arrête. Mariette Navarro résume. Ils n'auront pas été autre chose que des créatures terrestres qui paniquent dans le bleu. Ils auront vu leur vie résumée dans une vague, espéré le rivage et le réveil. La façon dont Mariette Navarro décrit le vacillement existentiel me semble tout à fait réaliste.
Oui, c'était même le premier passage que j'ai écrit, c'est cette baignade, ce moment où les hommes sautent à l'eau, c'était vraiment le point de départ autour duquel j'ai construit le roman. Et c'est sûr que moi, ce qui m'intéresse d'abord, ça ne va pas être le côté réaliste, ni même de raconter une histoire crédible, c'est plus comment trouver une image qui raconte quelque chose de notre monde ou de ce que moi je ressens ou de comment je me sens dans le monde. Et puis voilà, est-ce que tout cela est vrai ou pas vrai? J'ai envie de m'amuser de ça. La narration, elle arrive presque après. Une fois que j'ai mes fragments poétiques qui commencent à s'agencer, je regarde ce que ça commence à composer et là je construis la narration, mais c'est pas mon point de départ. Donc c'est pour ça que je m'embarrasse pas beaucoup de réalisme, même s'il y a des détails techniques que j'ai vérifiés, mais c'est pas le point de départ, c'est vrai. Et je préfère chercher une vérité poétique qu'une vérité technique ou scientifique.
Mais ce vertige existentiel, la manière dont vous le décrivez me paraît en quelque sorte très réaliste. Alors comment réagissent les hommes dans l'eau? Comment sont-ils plus maîtres de leurs mouvements? Ils savent plus si ce sont leurs bras qui vont essayer de faire des mouvements pour avancer dans l'eau, ou si c'est l'eau, si ce sont les vagues qui font bouger les bras, enfin leur corps. Toute cette peur qui les prend par le cou, à un moment venu, ça me paraît extrêmement réaliste en même temps.
Oui, j'aime bien aller chercher, mais ça aussi, ça vient peut-être de l'écriture aussi théâtrale et poétique, mais aller chercher quelque chose de très archaïque aussi, de sensations et de sensations physiques, et aussi parce que je veux parler à chacun et que le lecteur, la lectrice puisse entrer dans cette histoire pas seulement par la pensée, mais aussi par des sensations, par le corps. Et je crois que le fait de se jeter dans l'eau, nu, quel que soit notre âge, si on est un homme, si on est une femme, si on a un enfant, et c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir, qu'on l'ait fait ou pas, on sait ce que c'est, on sait ce que ça produit. Et voilà, j'aime bien travailler avec des matières un peu brutes comme ça, l'eau, le corps, les sensations, le froid.
La sensation de la nullitude aussi, d'être rien finalement dans cet océan profond. Quand les hommes, quand leur aventure est finie, il y a l'apparition d'un homme qui vient de nulle part. Il est là, il ne parle pas, il regarde, il disparaît. Qu'est-ce qu'il symbolise ?
Alors, j'avais envie qu'il puisse symboliser plusieurs choses selon la lecture qu'on en a et qu'on puisse avoir plusieurs interprétations possibles, comme quand il y a quelque chose d'étrange qui se produit dans nos vies, on peut le voir de différents points de vue, avoir des interprétations. Moi, au départ, c'est vraiment d'un point de vue juste littéraire, c'était d'ouvrir encore plus ce livre. Parce que finalement, la traversée que moi j'ai faite sur un cargo de marchandises, pour moi, elle a été formidable, passionnante, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas... Mais il y a eu des choses bouleversantes, juste d'être au milieu de l'océan, de perdre ses repères, de se sentir minuscule, d'être malade, de plus contrôler son corps. Et donc c'était une façon de traduire aussi tout le trouble qu'un voyage pareil peut produire quand on n'est pas habitué, quand on est déplacé, quand on change d'élément. Et puis aussi c'était une façon d'ouvrir à la littérature... De mer qui existe, toute la tradition aussi, des navires fantômes, des choses plus étranges qui peuvent se passer en mer. Même dans Homère, dans l'Odyssée, il y a on croise des mondes plus étranges et des créatures étranges. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais rejoindre aussi avec ce personnage quelque chose qui nourrit nos imaginaires collectifs. C'est le fait que dans cet environnement... inconnu quand même, qu'est la mer, même si on navigue depuis des siècles, c'est quand même un truc inconnu. Il peut se produire nos rêves, nos fantasmes, nos peurs, les choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas.
Je veux dire qu'intégrer des allusions mythologiques, citons ou inventons aussi des légendes de capitaines et de leurs équipes ayant perdu toute notion du temps, et ayant disparu du radar pendant une semaine. C'est la perspective d'une poétesse.
Oui, bien sûr. Moi, ce qui m'a passionnée d'être avec des marins, c'est que c'est un monde aussi, oui, avec ses légendes, avec ses peurs qui sont très concrètes, hein, la peur des tempêtes, des vagues. Mais aussi toute une tradition comme ça, comme un peu comme au théâtre. Moi, je viens plus du théâtre et on a nos peurs, nos superstitions, nos magies. Et c'est ça qui est passionnant. Et puis aussi de dire qu'on est au 21e siècle, tout est sous contrôle, et en même temps, il se passe des choses qui nous échappent. Il y a des gens qui disparaissent, il y a des avions qui disparaissent, il y a des bateaux qui disparaissent. Voilà, qu'est-ce que c'est ?
Est-ce que vous avez beaucoup fait des recherches pour trouver des légendes de matelots, de capitaines, enfin des gens de la mer ?
J'avais en tête plus des choses de la littérature. Melville, ces grandes figures comme ça. Mais après, c'est plus avec ma propre imagination et mes propres peurs aussi, d'imaginer qu'est-ce qui me terrifierait. Et c'est vrai qu'on perd la notion du temps quand on est en mer, parce que pendant des jours, on voit le même... on a l'impression qu'on n'avance pas, on voit le même paysage, toujours ce rond bleu, il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de repères, il y a juste les lumières qui changent, mais ça crée quand même quelque chose de... On n'est plus connecté, on n'est plus... Donc, un nouveau temps qui s'ouvre. Donc c'est un petit peu ça que j'ai voulu explorer avec ces légendes de disparition aussi.
Il y a aussi cette caractérisation de la capitaine, cette jeune femme qui a besoin de renouer avec la vie en quelque sorte, de se reconnecter, qui a toujours en elle le besoin de partir, Elle a presque peur de mettre les pieds sur la terre. Quand un voyage est terminé, elle pense déjà à repartir. Elle est plus à l'aise sur l'eau. Les matelots, les officiers de marine, les capitaines de navires, cargo, est-ce qu'ils sont si différents ?
Là, dans le concret, la réalité, c'est un travail aussi qui est très difficile parce qu'ils demandent... Enfin, c'est des hommes... Là, je parle pour les officiers français, par exemple. Ils partent 2 mois, ils reviennent 2 mois. Mais les marins roumains, philippins, qui n'ont pas les mêmes contrats, eux, ils peuvent partir 10 mois sur la mer, revenir 1 mois chez eux. Donc, ça crée quelque chose, un décalage permanent. Enfin, je ne sais pas comment on fait pour revenir quand on a été 10 mois en mer, revenir dans sa famille, revenir... Oui, même dans son lieu de vie, tout a avancé sans nous. Enfin, on doit se sentir tout le temps décalé, à rattraper le temps perdu, à ne pas pouvoir partager aussi ce qu'on a vécu, parce qu'il y a des choses qui ne se racontent pas, qui sont juste de sensations, voilà, qui ne sont pas forcément des aventures, mais des choses qu'on ne peut pas partager, communiquer. Donc, c'est ce décalage qui m'a intéressée. Et puis aussi... Enfin, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, enfin, bon, voilà, c'est peut-être la caractéristique humaine, mais aujourd'hui aussi à chercher notre place dans le monde tous, et entre ceux qui ont besoin de planter des racines, de construire, de rester à l'endroit où ils ont grandi, de reprendre la maison des parents, tout ça, et ceux à l'inverse qui ont besoin de bouger, de voyager, de changer de ville tout régulièrement, ou de partir en voyage, et je trouve que ça c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de moi, ce va-et-vient permanent entre j'ai envie de m'implanter quelque part, et en même temps tous les possibles m'appellent, et donc les changements de vie, les changements, je travaille quasiment jamais à Paris en fait. Parce que je vais avoir une mission, trois jours dans un théâtre dans le sud, 2 jours dans le nord. Et c'est vrai que je pense que j'ai reconnu quelque chose de la vie des marins aussi. Et puis parfois de cette fatigue d'être tout le temps, de bouger tout le temps. Et puis en même temps, c'est notre passion, c'est ce qu'on aime faire. Voilà, cette contradiction très forte.
Mariette Navarro travaille comme dramaturge. Elle publie une série de recueils de poésie et écrit actuellement son 2e roman. Ultramarin a été couronné du prix Leonora Miano des Frontières et fut traduite en allemand peu de temps après sa parution. C'est une œuvre exceptionnellement bien composée et écrite qui a beaucoup de chances de gagner le prix Première 2023. Jean-Paul Dumagrier avait 25 ans lorsqu'il a publié un premier livre de photographie. Des galeries et des musées exposent ses photos. La Bibliothèque nationale de France a acheté des œuvres pour sa collection. En tant que photographe, Jean-Paul Dumagrier a souvent été employé sur des tournages, notamment sur des films d'Agnès Jaoui et de Gilles Mimouni. Dans son roman « Dieu les pères », il évoque de manière ludique des scènes de films, des acteurs et des réalisateurs réels apparaissent et une chambre est décorée comme dans le film culte de Alfred Hitchcock, « Psycho ». Son style est très imagé, drôle et sérieux, plein de sous-entendus. Le personnage principal est un acteur raté. Sa phobie des plateaux de scène détruit sa carrière prometteuse et son mariage. Bob Desclerc vit seul avec sa fille dans la banlieue parisienne. Il a peu d'argent, la vie n'est pas facile, mais il ne se lamente pas. Alors, était-ce un plaisir d'écrire sur un homme qui ne se plaint à aucun moment d'être un père à plein temps ?
Alors en fait, bah oui, c'est un grand plaisir parce que bon, moi je suis père de 2 enfants, de 2 filles. Et je m'en suis beaucoup occupé quand elles étaient petites, parce que j'avais la chance d'avoir un métier qui me permettait d'être beaucoup avec elles. Et donc, en fait, comme j'écris un journal tous les jours, J'ai beaucoup puisé dans ce journal pour retrouver des sensations de cette époque et pouvoir avoir des indications qui soient justes par rapport à la vie d'un père qui élève son enfant. La mère travaille, et donc c'est un peu l'inverse de la situation habituelle qu'on a connue auparavant. J'ai vraiment partagé énormément de moments avec elle que j'ai pu retranscrire dans le roman. J'avais pris beaucoup de notes. Et c'était des choses parfois très très simples, comme redécouvrir la façon qu'un enfant a de regarder des fourmis en soulevant une pierre dans un bois, ou un petit animal qui se promène, un écureuil, enfin des feuilles qui bougent le soir quand il s'endorme, des ombres sur les murs, enfin toutes ces choses qui font l'enfance en fait. J'aime beaucoup le monde de l'enfance parce que je trouve que c'est un monde de découverte et de curiosité. Et souvent on redécouvre beaucoup de choses en tant qu'adulte, en revivant avec un enfant. Voilà. Et Bob, c'est encore un père très inventif. Il a été comédien, donc il a ce goût du jeu, de toute façon. Et il adore faire des tas de choses avec elle, inventer des histoires. Ça peut être dans un bus, inventer qu'ils sont en train de descendre une pente de ski parce que le bus bouge beaucoup. Ou poursuivre son enfant en faisant semblant d'être un loup, tout ça, sous les yeux ébahis des mères, parce que j'ai remarqué que les mères jouent pas tellement avec leurs enfants, en fait, et que c'est surtout les pères. Je ne sais pas si c'est une observation qui est complètement juste ou qui est juste personnelle, mais enfin, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Et donc, pour moi, ça a été un grand plaisir, bien sûr, d'écrire sur Bob, et parce que moi-même, j'ai vraiment une paternité très forte, et j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à élever mes enfants, et j'ai éprouvé donc beaucoup de plaisir à parler de ça dans le roman.
Aujourd'hui, on parle beaucoup de la masculinité toxique, mais existe-t-il aussi une féminité toxique ?
Alors, je ne sais pas s'il existe une féminité toxique, en fait. Probablement, il en existe une. Mais c'est une question à laquelle je trouve qu'il est très difficile de répondre en ce moment. J'ai l'impression que dès qu'on touche à ces problèmes-là, on se met tout de suite dans des positions assez difficiles. Moi, je crois qu'en fait, surtout, c'est les rapports entre les hommes et les femmes qui sont pas tout à fait résolus encore. C'est-à-dire que on a une évolution qui s'est faite, mais elle est pas complètement terminée. On est dans une sorte de transition. Et on a encore ces mâles virils et dominateurs qui par certaines femmes sont rejetés, mais d'autres continuent à adorer ces hommes qui sont vus comme des héros, qui résolvent tous les problèmes, qui trouvent des solutions à tout, qui... Et je pense qu'il y a encore des femmes qui sont sur ce schéma. Et c'est pour ça que dans le livre, il y a deux femmes. Il y a Nathalie, donc, qui représente plutôt la femme d'avant et qui attend que son mari assure sa virilité, on va dire, dans un sens, qui gagne sa vie, qui la protège d'une certaine manière, etc. Qui se comporte comme un chef de famille, comme nos grands-parents, enfin, comme avant cette sorte de révolution féministe. Et en fait, elle l'a aimé parce qu'il a à un moment été une sorte de héros lui-même, parce que c'était un acteur connu. Il allait devenir un acteur très connu, gagner bien sa vie. Puis tout d'un coup, il y a cette phobie qui l'éloigne des plateaux de cinéma et des scènes de théâtre. Et il va tomber très bas, il va se retrouver sans argent. Et peu à peu, elle va au contraire beaucoup travailler. Elle va affirmer son rôle de journaliste et de reporter. Elle va rencontrer des hommes beaucoup plus virils, même on pourrait dire pratiquement des machos. Elle va trouver du charme à ces gens-là, beaucoup plus en tout cas qu'à Bob, qui est très heureux de changer son bébé, de faire le repassage, de faire le ménage, de faire la cuisine, enfin tout ça, voilà. Et puis d'un autre côté, il y a Karine, qui est l'autre femme de la vie de Bob. Il a une relation avec elle qui est une véritable relation amoureuse, mais il ne peut pas l'affirmer complètement parce qu'il a peur que sa fille ait un choc en découvrant qu'il est avec une autre femme que sa mère. Et Karine, c'est une femme évoluée, parce qu'en fait, son métier, c'est d'être chasseuse de tête. Donc, elle ne voit aucun inconvénient à être avec un homme qui s'épanouit au foyer. En fait, c'est tout à fait même le contraire. Elle trouve ça formidable parce que c'est des choses qu'elle n'aime pas faire, les tâches ménagères. Et donc, trouve ça formidable. Et c'est une qualité qu'elle aime chez Bob.
Dans votre roman, deux pères se mettent ensemble. Ils s'arrangent, ils vont même paxer. Et apparemment, n'ont-ils aucun problème de définir les rôles. C'est-à-dire, l'un gagne l'argent, l'autre s'occupe de tout ce qu'il faut pour faciliter la vie quotidienne. Dieu les pères est évidemment une réflexion sur la question de ce que nous attendons d'une famille. Quels aspects vous importent ?
Je pense que si Bob et Jean-Marc n'ont pas de problème à définir les rôles, c'est parce qu'ils ne sont pas influencés par la question des rapports entre les hommes et les femmes. Ça, je crois que c'est un point vraiment central. C'est d'ailleurs dit à un moment par Jean-Marc, qui dit à Bob, on va fonder une famille d'un nouveau genre, sans attente particulière, et il dit bien, il précise, pas de jalousie, pas d'exigence sexuelle. Et en fait, je crois que la vie des couples, parce que quand même une famille c'est d'abord un couple au départ, est largement corrompue par toutes les attentes. On raconte des choses, un couple ça doit être ceci, ça doit être cela, il y a des... Alors par exemple, on va dire que le nombre de rapports sexuels doit être de tant de fois par mois, sinon c'est qu'il y a un problème à l'intérieur du couple. Il y a toutes ces contraintes. Et en fait, c'est une véritable pression, je pense, qui est exercée sur un couple par rapport aux conventions de la société. Alors qu'eux, ils trouvent un équilibre dans l'amitié, dans une sorte d'amitié profonde et en même temps très joyeuse. Ils ont chacun une fille, ils vivent ensemble. C'est deux adultes vivant avec leurs enfants dans un même foyer. Ils sont pacsés parce que c'est avantageux sur le plan financier. Et je pense que les enfants sont très heureux du fait qu'il n'y a pas ces tensions auxquelles sont soumis les couples classiques. En fait, les enfants, ils vont s'épanouir dans un monde sans conflit.
C'est ça ? Ils adoptent facilement ce nouveau genre de famille ?
Oui, parce qu'ils ont subi tous les problèmes rencontrés par les couples quand ça ne fonctionne plus, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand les gens commencent à se disputer, quand les gens commencent à s'affronter, voire même jusqu'à se détester. Et pour les enfants, c'est jamais quelque chose de drôle. Et là, ces deux enfants étant des enfants du divorce, ils trouvent une espèce de paix à vivre avec ces deux hommes qui sont amis et dans une véritable famille, parce qu'ils ont aussi des rituels de famille, comme n'importe quelle famille. Et d'ailleurs, Bob et Jean-Marc ont tenu, quand ils se sont pacsés, à faire une fête qui ressemble à un mariage. Il y a une pièce montée, il y a deux petits bonshommes au-dessus pour la décorer, etc. Alors, ça pourrait être un mariage homosexuel, mais je pense que ça serait la même chose parce qu'on retomberait dans l'idée du couple. À un moment, il y a ce risque que quelque chose commence à se détériorer et qu'on se retrouve dans un rapport difficile dont les enfants vont pâtir, évidemment, en premier chef. Alors que là, comme c'est de l'amitié, ça fonctionne très bien, en fait. En plus, il n'y a pas de jalousie parce que Jean-Marc sait très bien que Bob, il a Karine. Lui, il est plus ou moins amoureux sans s'en rendre compte de la serveuse du restaurant où il va tous les jours. Mais d'ailleurs, les deux filles sont un peu inquiètes à un moment en se disant... Si un jour ils trouvent une femme, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'elles y tiennent à cette famille. Elles ont la peur que finalement ils trouvent une femme chacun et que la famille
va se dissoudre.
Alors elles inventent le fait que on pourra peut-être continuer. Alors du coup elles auront deux pères et deux mères, quoi.
C'est possible.
Plus leur mère. Plus leur véritable mère, en fait.
C'est l'avenir.
Ça oui, va c'est venir. Ça. Oui, non, mais c'est vrai. C'est des choses auxquelles on pense.
Oui. Au début de la narration, le protagoniste se considère lui-même comme un perdant. Et très tôt, il se met à esquisser sa biographie imaginaire sur Wikipédia, ce qui est une idée très drôle, avec toutes les étapes qu'on connaît, enfance, jeunesse, un passage sur sa vie prématurée de comédien et toute la filmographie et les apparitions sur les scènes de théâtre. J'aime beaucoup cette astuce narrative parce que le processus de la fictionnalisation d'une vie n'est à aucun moment caché. Et le côté onirique du roman est représenté, je trouve, dans une belle image finale. Considérez-vous, Jean-Paul Dumagrier, votre roman comme une méditation, dans une sorte de demi-sommeil ?
Alors, déjà pour la fiche Wikipédia, je m'étais dit que c'était intéressant de lui inventer une fiche Wikipédia parce que ça a été un acteur en vue et donc probablement quelqu'un aurait eu l'idée de lui écrire une fiche Wikipédia. Pour avoir lu des tas de fiches Wikipédia de gens que je connais, je sais aussi qu'il y a plein de choses qui sont fausses. Donc c'est amusant de partir sur l'idée que la fiche Wikipédia qui est censée représenter la vérité, c'est-à-dire les sources vers lesquelles on va venir quand on a un article à écrire ou quand on veut se renseigner sur quelqu'un, comme ça avoir une base de connaissances, souvent sont assez fausses en fait. Ce qui m'intéressait surtout, c'était d'écrire une fiche Wikipédia qui peu à peu évoluerait doucement en roman, c'est-à-dire que on va toujours aller vers le roman en fait, quoi qu'on fasse. Et en fait, si ça devient un roman, il n'y a plus ce pacte biographique. Alors, on ne sait plus très bien où se trouve la frontière entre ce qui est vraiment arrivé et la part de fiction. Et en réalité, tout est de la fiction, puisque c'est un roman. La fiche Wikipédia comprise, c'est un roman. Et comme j'ai évolué dans le monde du cinéma, j'ai semé ici et là aussi des références qui sont tout à fait vraisemblables, des gens qui existent, qui sont à peine masqués, en fait. On peut les reconnaître, on peut ne pas les reconnaître, ça entretient le doute. En fait, on se raconte toujours des histoires et on a toujours notre propre légende. Et je pense que, surtout quand on est un acteur, on passe d'un rôle à l'autre et on a toutes ces histoires en soi, mais nous aussi, en tant qu'être, tel qu'on est, sans être acteur forcément, on a des tas de légendes. On nous a raconté des choses quand on était enfant, qu'on n'a jamais été vérifiées. Enfin, il y a plein de choses dans nos vies qu'on n'est pas allé vérifier, qu'on nous raconte et qui font partie de notre légende. Et dans la vie réelle, par exemple, il y a des parts d'ombre, toujours. Des choses qu'on a oubliées. Alors on est obligé de les remplir avec de la légende aussi, des choses qu'on invente plus ou moins. Et je trouve que quand on se souvient, on invente toujours, forcément. Et puis écrire, c'est se souvenir aussi. Donc il y a un parallèle qui est assez évident entre les deux choses. Je ne sais pas si c'est très clair, en fait.
Si, c'est clair. C'est clair.
Non, alors juste, c'est sur la dernière phrase. La dernière phrase de Dieu les Pères, je pense que c'est ça a à voir beaucoup avec le cinéma, en fait. En fait, ce roman, il tourne vraiment autour du cinéma. Et quand on est dans une salle de cinéma, en fait, que la lumière s'éteint à la fin du film, on est dans l'obscurité et on ne sait pas trop si on a rêvé ou si c'était vrai. On part avec ces images, on se retrouve dans la rue, on a encore ces images. Il y a quelque chose qui est très onirique, en fond, dans le cinéma, du fait que c'est dans l'obscurité qu'on regarde un film. Je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que ce n'est pas du tout la même chose de regarder un film dans une salle et de le regarder sur un écran dans une pièce chez soi, parce que cette obscurité, elle fait complètement partie du cinéma, en fait.
Et c'était le 22e épisode de Litteramour avec Jean-Paul Dumas-Grillet et Mariette Navarro. Vous trouvez sur la page web les titres de leurs livres. Je suis Sigrid Brinkmann, je me réjouis de votre intérêt et j'espère que vous serez de retour pour la prochaine édition du podcast littéraire franco-allemand. Soyez curieux de découvrir une conversation avec l'écrivain Éric Huillard. Dans son livre « Une sortie honorable » qui vient de paraître en allemand, il règle ses comptes avec les députés et les directeurs de banque qui ont poussé la France à faire la guerre en Indochine. Bien à vous et à la prochaine.